Excellence, merci infiniment pour être venu célébrer la messe et faire cette conférence très intéressante. En tout cas, je me suis régalé. Je m'y attendais à vrai dire, donc je vais anticiper la commande. C'est maintenant le temps des questions.
Dans le cadre de... corps mystique, c'est ça. Hein? Bien, vous allez me... ça résonne très fort.
Hegel a-t-il influencé Newman? Si vous voulez, on peut poser une série de questions.
Oui, c'est bien.
Si vous voulez, nous avons pensé à une série de questions.
Le rôle du magistère.
Oui, c'est ça, par rapport à l'idée chrétienne.
Oui, oui. Oui. Peut-être commencer par celle-là, puis alors... Je ne pense pas que Newman ait... utiliser l'expression corps mystique pour illustrer le développement, mais ce serait tout bien dans la logique de sa pensée. Parce que qui dit corps mystique dit organisme vivant, où il y a non seulement la multiplicité des membres, mais aussi leur cohésion, leur cohérence, leur interaction. Donc c'est bien comme cela qu'il se représentait le développement de la doctrine chrétienne. Cohérence, vitalité, un peu comme un corps qui grandit et qui demeure le même à travers ses évolutions. Je ne pense pas qu'il ait travaillé la philosophie de Hegel. D'ailleurs, il n'était pas vraiment un philosophe. Pour lui, c'était trop abstrait. la philosophie. C'est un homme qui a une grande capacité intellectuelle, mais très marqué par tout ce qui est positif, tout ce qui est historique. Et s'il avait eu connaissance de Hegel, il aurait eu une profonde aversion pour cette pensée qui ne cherchait vraiment pas à être fidèle à la tradition apostolique, mais qui avait comme souci de transposer l'idée chrétienne dans une gnose, dans une construction philosophique qui dispensait du Christ en quelque sorte. Le Christ était qu'un présupposé, pour le développement d'une pensée philosophique, toutes choses pour lesquelles Newman aurait eu la plus profonde aversion. Il était très allergique à tout ce qui était purement intellectuel, cérébral, et surtout à ce qui était infidèle aux sources. Ça aussi, c'est très caractéristique. Il était un des rares théologiens à son époque à être profondément nourri de la lecture des Pères de l'Église. Après, au XXe siècle, il y a eu tout un développement de la patristique qui a renoué avec la meilleure époque scolastique. Saint Thomas d'Aquin se nourrissait des Pères de l'Église. Mais après, on a perdu un peu cela. On raconte qu'un jour, Thomas d'Aquin passait près de la cathédrale de Notre-Dame de Paris en construction. On la construisait à son époque. Et on lui demandait, est-ce que vous ne seriez pas heureux, frère Thomas, de voir la construction achevée de cette cathédrale? Il répondait, je serais beaucoup plus intéressé si je trouvais une traduction latine de telle œuvre de Saint Jean Chrysostome. Se nourrissait de la lecture des Pères de l'Église. Mais Newman était exemplaire. Après, on a fait beaucoup au XXe siècle. La dernière question touchait le rôle du magistère. Pour vérifier qu'un développement est vrai, est authentique, et correspond bien à l'idée chrétienne, et Newman a explicité cela dans les 7 critères que j'ai énoncés tout à l'heure, il y a un rôle indispensable joué, selon lui, par le magistère de l'Église. Et dans l'admirable livre qu'il a écrit pour se défendre contre des attaques d'anciens confrères anglicans qui l'ont attaqué en disant « Vous avez trahi l'Église anglicane, vous êtes rallié au romanisme par intérêt. » Il a écrit un livre superbe. Si vous voulez lire un livre de Newman qui est aisé à lire, il faut lire « L'apologie à Provita sua », « L'apologie pour sa propre vie », où il explique pourquoi il est devenu catholique, comment il n'a pas voulu trahir l'Église anglicane, mais il a voulu rejoindre la plénitude de la vérité, pas par calcul, pas pour chercher des avantages, au contraire. Au contraire, on pourrait dire que Newman a tout perdu en devenant catholique sur le plan humain. Il a perdu ses amis anglicans et il était longtemps considéré dans l'Église catholique par certains évêques comme un danger, la cinquième colonne, un ancien braconnier devenu garde-chasse. Il a beaucoup souffert. Bien, dans l'Apologie à Provita Sua, il y a une page admirable où il dit « Si nous supposons que la volonté de la Providence est que la révélation donnée par Dieu en Jésus-Christ se perpétue à travers les âges, fidèlement, et résiste aux conséquences de ce qui est pourtant notre plus grand don naturel, à savoir la capacité de réflexion et la liberté de jugement. Si Dieu veut que sa révélation demeure fidèle, fidèlement reçue à travers les âges, malgré la tendance spontanée de l'esprit humain de critiquer, d'adapter, de choisir, de retenir ce qui convient. Capacité liée à notre plus grand don naturel, la capacité de réfléchir. Si Dieu veut préserver l'identité de sa révélation à travers les âges, eh bien, il est raisonnable de penser que l'instrument le plus adapté pour cela est d'avoir un magistère dans l'Église, qui, le cas échéant, sera doté, en certaines circonstances, de l'infaillibilité, afin que, à travers les âges, et malgré toutes les tentations de discontinuité, de rupture, on demeure fidèle à l'idée chrétienne. Il accordait un rôle extrêmement important au magistère de l'Église, alors que par ailleurs, il était un champion de la liberté de penser. Sur un plan anthropologique, il considérait que la liberté de penser, c'est ce qu'il y a de plus important dans la vie. Penser par soi, juger par soi, ne pas être entraîné comme un mouton, mais avoir, obéir à sa conscience. Et c'est très beau, c'est paradoxal, mais c'est très très beau que cet homme qui était si attaché à la liberté de penser, soit en même temps quelqu'un qui est devenu le champion de la nécessité d'un magistère pour que le développement de la doctrine soit fidèle à sa source, y compris l'infaillibilité pontificale. Alors, quand on était anglican auparavant, eh bien, c'est un itinéraire extraordinaire d'en arriver à cela.